Bonjour, bienvenue sur la chaîne Guitare. Mon nom est Pierre Jornel et je suis ravi de vous accueillir sur un nouvel épisode de la chaîne Guitare. Il s'agit de l'épisode 45. C'est parti pour le sommaire. Alors l'épisode que je vous propose cette semaine est d'un genre un peu particulier puisque pour une fois, va pas y avoir d'interview, va pas y avoir d'extrait de concert, ça va pas être un backing track, ça va pas être un épisode noto que visiblement puisque je suis déjà en train de causer dans le poste, ça va être un épisode où on va aborder un thème bien spécifique qui est comment progresser. Alors voilà, vaste programme et d'ailleurs il y a quelques temps sur la page fan Facebook de la chaîne Guitare, j'avais lancé le débat, j'ai recueilli un certain nombre de réactions dont je vais parler d'ailleurs un petit peu plus loin. Donc voilà, ça va être l'idée, le thème directeur de cet épisode, c'est comment progresser. Alors voilà, j'espère que je vais être capable de vous donner 2-3 billes et pour ce faire, j'ai été aidé par Laurent que vous allez entendre dans quelques instants, qui m'a fait le plaisir de m'envoyer un assez long feedback audio justement et qui va permettre de bien lancer le débat. Alors je vous propose, écoutez, sans plus attendre, de l'écouter et on se retrouve de l'autre côté. C'est parti.
Bonjour, je m'appelle Laurent Picciotto, j'ai 48 ans, je travaille dans le secteur de la haute horlogerie et j'ai contacté la chaîne Guitare pour aborder un sujet qui me hante. Je joue de la guitare depuis l'âge de 14 ans et quand je discute avec un grand nombre de personnes qui sont passionnées de cet instrument, ils sont pour une énorme majorité, tous autodidactes. Ils ont appris en chopant 3-4 accords, en demandant à des potes, et d'autres ont évidemment eu des parcours plus académiques, en prenant des cours, que ce soit au conservatoire ou en cours collectif ou particulier. La vraie question, pour un grand nombre, je dirais non pas de guitaristes, parce que guitariste induit toujours un côté maîtrise totale à 100% de l'instrument, ce qui est loin d'être mon cas. Je considère que je joue un peu de guitare, même si j'en joue depuis fort longtemps, avec des cycles plus ou moins importants en termes de motivation. La vraie question que j'avais envie de poser ou de lancer comme débat, c'était de savoir, peut-être, il y a d'autres chemins pour évoluer, je dirais pour apprendre, et ou pour évoluer ou progresser. Alors bien sûr, on a à notre disposition un assez grand nombre de canaux classiques, le net étant aujourd'hui une possibilité extrêmement large en termes d'amplitude, on peut passer effectivement son temps à essayer de reproduire ou de singer un assez grand nombre de bonhommes, des moins jusqu'aux plus talentueux sur YouTube. On peut regarder aussi un assez grand nombre de leçons payantes ou gratuites, et par rapport à ça, on peut aussi évidemment prendre des cours académiques ou moins académiques. Mais il me semble, en tout cas, c'est ça la vraie question, il y a peut-être des moyens différents. Plutôt que chacun dans notre coin, avec la volonté de continuer à évoluer, comme le dit Bertignac, on évolue doucement. On peut, si on a 3 ou 4 ans devant soi, essayer, comme Louis, d'écouter des disques et de s'intégrer dans les différents groupes de ce qu'on écoute. Mais pour des hobbyistes que nous sommes, pour un grand nombre d'entre nous, il y a peut-être d'autres voies. Ces autres voies, j'ai envie de lancer un appel, de dire, mais bon, il y a d'une part un certain nombre de personnes qui sortent du cadre. Il y a un site qui s'appelle 3cordes.com où il y a un gars qui propose les riffs les plus connus mais avec 3 cordes. Alors je parle pas forcément de simplisme, en tout cas ce sont des voies alternatives. Et plutôt que de chercher chacun dans son coin à évoluer d'une façon ou d'une autre, mais en étant majoritairement sur les mêmes pistes, il y a peut-être des pédagogies qui nous échappent ou qui nous sont inconnues. Donc là, je lance un appel. Comment progresser de façon efficace? On a le sentiment qu'on joue tous à peu près toujours la même chose. Je dis bien, je ne fais pas une généralité. Il y a heureusement des vrais guitaristes, des très bons. Mais il y a aussi la confrontation, c'est souvent de rencontrer un môme de 14-15 ans qui a fait plus de boulot. Alors évidemment, il y a des questions d'aptitude, hein. On peut être plus ou moins doué sur le sujet, mais on rencontre des mômes de 14 ou 15 ans qui parfois vous sèchent dans la mesure où vous jouez depuis 10, 20, 30 ou 40 ans, mais en gros vous jouez toujours à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire vous êtes sur vos gammes de pentatonique, vous êtes capable d'improviser un solo sur à peu près n'importe quel plan, à l'exception peut-être de styles qui vous sont un peu moins propres. Et en gros, vous faites à peu près toujours les 8 à 12 mêmes accords, les plutôt d'ailleurs de l'impro que de la reproduction ou la connaissance de certaines chansons de façon assez précise. Donc, je pense que c'est un vrai sujet qui peut tous nous intéresser, nous faire progresser. Donc, je lance un appel à ceux qui ont... ceux qui ont réussi à avancer par d'autres voies, avec d'autres personnes, ou d'autres moyens, ou d'autres méthodes. Il y a aussi un certain nombre de personnes qui sortent du cadre. Évidemment, là, il faut être plus dans la dimension d'un Jack White, ou de types qui n'ont pas peur de briser les codes. Et ça, je pense que c'est aussi une ouverture d'esprit intéressante. C'est-à-dire qu'il y a des guitaristes qui ont trouvé leur voix avec leurs propres accords, avec leur propre nombre de cordes, avec leur façon de jouer aussi, c'est-à-dire guitare à plat sur les cuisses. Enfin, il y a aussi cette capacité de, à un moment, de sortir de la ligne, on va dire, traditionnelle et d'adapter l'instrument à sa façon de voir les choses et non l'inverse. Alors, sans aller jusqu'à le côté expérimental extrêmement complexe parfois, parce que finalement il y a une intuition et un instinct qui peut permettre à certains effectivement de faire de longs chemins sur leur propre voie. Mais pour revenir à l'essentiel, comment y a-t-il des pistes pour avancer plus rapidement, plus efficacement? Voilà, c'est le débat que j'ai envie de lancer. Alors bien entendu, il y a aussi une parenthèse, mais un assez grand nombre de personnes qui se trouvent dans mon cas et qui sont atteints, comme le disait la personne qui s'occupe de Woodstore, et qui parlait de la matosmania, je ne me souviens plus du terme exact, mais quelque chose dans cet état d'esprit. C'est vrai aussi que le joueur moyen a tendance à être dans une intoxication de matériel. Et c'est assez évident. Je veux dire, l'excellent guitariste, on lui donne une planche à pain avec des cordes, et il vous sèche. Il est capable non pas de faire impression, il a la véritable maîtrise. Quand on a un peu moins de maîtrise, c'est vrai qu'on est plutôt tendance on a plutôt tendance à jouer sur l'électrique assez fortement amplifié avec un assez grand nombre d'effets qui masque, je dirais, la technique relative. Donc on fait impression souvent. Alors c'est vrai que on est tous lucides, plus on a de matériel. Et c'est pas pour autant qu'on va jouer, je dirais, de façon bien meilleure. Le seul bémol, c'est que à force aussi d'acheter beaucoup de matériel, on relance de la motivation. C'est-à-dire que on ne dépense pas impunément des sommes parfois relativement importantes dans une nouvelle guitare, un nouvel ampli, un nouvel interface audio, et que sais-je, pour les laisser prendre la poussière. Donc ça relance la motivation. Je dirais que c'est l'aspect quand même qui fait que on peut éventuellement progresser en achetant plus de matos. Mais c'est quand même pas l'essentiel. D'ailleurs, ce que je disais à Pierre, c'est que dans les différents sujets qui sont évoqués dans la chaîne guitare, on apprend énormément de choses. Mais cet aspect de la question, je veux dire, au-delà du matos, des expériences de chacun, des news, des découvertes qu'on peut faire sur la chaîne guitare, l'essentiel du sujet, au-delà de la fascination de l'objet, de sa beauté, de ce qu'il évoque, et je dirais même d'une certaine attitude de vie, bien, le fondamental, c'est quand même de jouer. Et jouer bien, c'est mieux que jouer moyennement, évidemment, à plus forte raison, jouer mal. Moi, je suis capable, avec un certain nombre de copains, et sans décharger cette responsabilité, de vider un lieu du nombre de personnes qui s'y trouvent au bout d'un certain temps, parce que effectivement, on a tendance à jouer à peu près toujours les mêmes plans et d'évoluer de façon relative. Cyril Denis parlait récemment d'une école pour enfants, 7-10 ans. Peut-être qu'on peut faire la même chose pour les vieux, ou moins jeunes, on va dire. Voilà, bon, j'ai martelé, en réécoutant, je me suis aperçu que j'avais martelé à peu près X fois le même message, mais il me semble que, encore une fois, c'est un sujet qui peut nous apporter à tous, et j'espère qu'il y aura du feedback. Longue vie à la chaîne guitare, bravo Pierre, et à bientôt.
Alors, bah, écoute, d'abord, merci beaucoup, Laurent, de m'avoir envoyé ce long feedback audio. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, il y a juste à avoir un micro, brancher ça son ordinateur, et puis et raconter, dire un peu ce qu'on a sur le cœur pour lancer le débat. Donc, je pense que c'était un peu c'était parfait comme entrée en matière, parce que ça permet d'ouvrir la question, d'amener un certain nombre d'éléments de réponse. Moi, dans un deuxième temps, là, je vais amener mes petites recettes de cuisine, comment je fais pour progresser, ou en tout cas pour essayer de progresser. Je vais juste revenir sur quelques points en fait que t'as abordé. Alors tu parlais de la pentatonique. Alors c'est marrant parce que il y a quelques temps, il y a déjà bien longtemps, il y a peut-être j'ai 42 balais moi, donc il y a facilement 25 ans, j'avais pris un ou deux cours de guitare avec Mauro Seri, parce qu'il se trouve qu'à l'époque c'était un voisin qui habitait l'immeuble à côté de chez mes parents. Et une des premiers trucs que je lui avais dit, c'était oh là là, moi je sais jouer que la pentatonique, j'arrive pas à m'en sortir, etc. Puis il m'avait dit ah mais on peut faire des tas de choses avec la pentatonique quoi. À l'époque, cette réponse m'avait beaucoup surpris. D'ailleurs, je pense que j'ai déjà raconté cette anecdote dans un autre épisode de la chaîne guitare, mais tu vois, de t'avoir écouté, ça m'a fait repenser à ça. Et effectivement, on peut faire beaucoup de choses. Et il y a juste à écouter des guitaristes comme tous les grands. Les vieux bluesmen américains, les B.B. King, les Otis Rush, enfin les Albert King, les gens qui ont inspiré les générations plus récentes, qui sont peut-être plus connues, style Stevie Ray Vaughan. B.B. King, je veux dire, c'est rare qu'il sorte de la pentatonique. Bon, des fois c'est pentatonique majeure, mineure, mais enfin bon, c'est pas un déluge de notes, et pourtant lui, quand il joue deux notes, il te met le cul par terre quoi. Donc c'était juste bon pour reboucler par rapport à ça, parce que finalement, et ça moi c'est un des thèmes auquel je crois beaucoup, c'est que on a toujours l'impression que techniquement il faut qu'on progresse beaucoup, alors qu'en fait on n'a pas besoin, je vais peut-être en choquer certains, mais on n'a pas besoin d'être très bon pour avoir besoin de progresser musicalement. Je m'explique, vous pouvez travailler l'aspect mécanique, là, comme disait Jean-Michel Cajdan dans un épisode précédent, et puis et pour jouer de plus en plus vite, ça fera pas de vous un meilleur musicien quoi. Donc et quelqu'un qui joue de la guitare depuis 6 mois, bon, il sait déjà jouer quelques accords, mécaniquement il maîtrise ça, c'est pas pour ça qu'il sait bien jouer et que musicalement il est capable d'en faire quelque chose. Et un peu plus tard, bon, il saura déjà, enfin, la maîtrise technique pure, mécanique, n'est malheureusement pas une garantie d'une maîtrise musicale, quoi. Donc, bon, ceci dit, c'est toujours bon de maîtriser sa technique, hein, c'est toujours pareil. Alors, oui, tu parlais aussi de l'acquisition de matériel pour se remotiver, et ça, c'est vrai, il y a aucun doute, hein. Je pense Julien de Woodstore en parlait, là, je pense qu'il faisait référence à des initiales qu'on voit assez souvent, qui sont GAS, ou en anglais, ça veut dire Gear Acquisition Syndrome, ou alors Guitar Acquisition Syndrome, donc c'est un peu la maladie de l'achat de la guitare, ce qu'on se dit, oh là là, si j'avais la guitare, telle guitare, ou alors la guitare de Clapton, Jeff Beck ou Eddie Van Halen, c'est sûr que je jouerais comme lui, quoi. C'est un fantasme qu'on a tous eu, qu'on a tous encore, faut être clair, et qu'on peut décliner d'ailleurs à tous les niveaux, hein, au niveau guitare, au niveau effet, au niveau ampli, au niveau cal, interface audio, il y a pas de limite, quoi. Donc bon, il faut être honnête aussi et admettre que, enfin, en tout cas moi je le dis, c'est un des plaisirs aussi de la guitare, hein, c'est que il y a plein de gadgets autour, tout ça, puis c'est des beaux objets comme les guitares. Donc clairement, moi j'en ai acheté beaucoup des guitares, j'en ai revendu quelques-unes. L'achat même de la guitare, même sans en jouer, c'est déjà un plaisir. Donc et c'est vrai que avoir un bon instrument, un nouvel instrument, c'est sûr que c'est un peu comme retomber amoureux. Là tout de suite, on est tout excité, on est plein d'énergie. Bon, malheureusement, ça dure pas autant que les impôts. Puis après, bon, bah, s'il faut racheter une guitare tous les 6 mois pour se remotiver, ça devient vite un petit peu cher. Par contre, on peut comme ça tomber sur la guitare qui vous convient, hein. Je me rappelle d'une interview de Rory Gallagher dans un Rock and Folk il y a je sais pas combien de dizaines d'années, il y a très longtemps, où il disait ça prend beaucoup de temps avant de trouver l'instrument qui vous convient, quoi. Et moi, à l'époque, mon frère avait acheté une Leduc D3 avec laquelle je jouais beaucoup. D'ailleurs, je jouais plus avec que lui. Et j'avais quoi, peut-être 13-14 ans à l'époque. Je me disais, ah là, moi j'ai de la chance, j'ai trouvé une super guitare. C'est la guitare de mes rêves, etc. Bon, puis je me suis rendu compte après, c'est une guitare que j'ai toujours d'ailleurs, une guitare que j'aime beaucoup, mais c'est pas la guitare de mes rêves, quoi. Donc, je dis pas ça pour vous pousser à changer de guitare tous les 6 mois, mais il n'empêche que des fois on peut faire des rencontres ça peut permettre de vraiment de trouver sa voix ou sa vraie personnalité. Donc il y a des guitaristes qui sont tellement talentueux que, comme tu le disais Laurent, ils pourraient jouer avec une planche à pain ou avec un grille-pain et puis ils seraient incroyablement bons. Pour le commun des mortels, il y a quand même en général très souvent un instrument de prédilection avec lequel on est plus à l'aise, une strato, qui une Les Paul, enfin bon, ou alors qu'il y a un autre instrument entre les deux, une demi-caisse, jazz, enfin bon, il y a mille et une variations par rapport à ça. Donc, ça peut aider aussi, et ça, t'as tout à fait raison. Alors, pour ce qui est du volet de l'école là, pour jeunes là, que Cyril Denis a lancé, et me lancer la même chose pour les vieux, bah ouais, c'est vrai que ça serait pas mal pour les moins jeunes, comme tu disais. Moi, je crois beaucoup aux vertus d'un cadre pédagogique, hein, ça, il y a aucun doute que ça peut aider. Et par contre, je crois aussi beaucoup à quelque chose qui soit quand même relativement souple, parce que moi, je compte plus parmi mes amis ceux qui ont été écœurés du piano ou de la guitare parce que ils sont coltinés des années de solfège, etc. Et ça les a écœurés. Et puis on leur a appris un peu la technique, mais pas du tout à trouver du plaisir, à prendre du plaisir en jouant d'un instrument, quoi. Donc clairement, là, il y a un décalage qui est un peu regrettable. Alors, si j'en viens maintenant, moi, apporter mon petit grain de sel par rapport à ça. Bon, clairement, le point qui permet de progresser, bon, je vais pas vous apprendre grand chose, c'est de jouer. Donc, le plus vous allez jouer, automatiquement, vous allez progresser, quoi. Donc, ça permet parfois de passer un certain cap, et puis c'est sûr de s'attacher à un morceau bien particulier. particulier, quelque chose d'un petit peu difficile. Bon, bah, au début, vous allez le jouer très mal, et puis vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, bah, vous le jouez un peu moins mal, et puis vous allez sentir nettement qu'il y a des paliers. Donc, c'est pas évident d'avoir une discipline, hein, mais c'est même très dur. Hein, mais clairement, c'est plus vous jouez, plus vous allez faire de progrès. L'autre point que je voulais apporter, c'est avoir un son de qualité. Et je mets un en majuscule, et c'est très important de se concentrer sur le son que vous allez obtenir avec les doigts, beaucoup plus que le sans arrêt être en train de bricoler sur votre ampli, sur votre Line 6 Pod XT, sur votre nouveau préampli avec des gadgets dans tous les coins, sur toutes vos pédales d'effet. Là aussi, ça, je pense, c'est un travers de jeunes guitaristes, de débutants, que moi j'ai eu beaucoup, ou enfin comme tout le monde, hein, où j'avais l'impression qu'il me fallait le chorus machin, la saturation bidule ou l'ampli truc là pour progresser. En fait, bon, c'est une illusion. Alors après, bon, c'est obtenir un bon son à la guitare, c'est comme avec la cuisine, hein, faut partir avec des bons ingrédients. Mais si vous avez des bons ingrédients de base, après, bon, bah voilà, hein, c'est à vous de travailler. Donc je sais que moi, c'est quelque chose qui m'aide à progresser, c'est de, paradoxalement, de limiter mes options. Alors moi, j'ai un Line 6, un Pod XT, que j'ai acheté il y a quelques années au Canada, que j'aime beaucoup, ce qui est une variété de sons qui est incroyable, mais justement, il y a trop de variétés de sons. Quand je veux juste jouer un peu la guitare et puis passer une heure à progresser, enfin progresser en tout cas, à travailler avec des gros guillemets l'instrument, je suis mieux d'avoir une configuration beaucoup plus simple, avoir un son qui va me plaire et puis me concentrer sur le morceau plutôt que de me dire ah tiens si je rajoutais un petit chouille de reverb ou tiens si j'essayais telle modélisation d'ampli je me rapprocherais plus. Puis rapidement vous rendez compte que vous avez passé 70% de votre temps ou 80% de votre temps à jouer, enfin plutôt à bricoler votre son plus qu'à jouer. Donc moi je sais que la plupart du temps à la maison, donc comme j'ai rangé le Pod XT dans un carton, je joue soit avec mon ampli Marshall qui est repris sur l'interface audio, donc avec le haut-parleur en fait qui est pas activé, ou alors avec une pédale préampli sans amp et puis juste avec une petite touche de reverb ajoutée avec mon interface audio ultra light, quoi. Donc c'est ultra simple, j'ai un son clair, un son saturé. Le son saturé est très beau, magnifique, puis il répond très bien au potard de volume, mais la plupart du temps je joue avec ça, et le fait de pas avoir cette tentation de bricoler le son, je sais que moi ça c'est un mécanisme assez puissant. Autre point, avoir son équipement toujours facile d'accès, parce que ça, s'il faut sortir la guitare d'un étui, recâbler tout votre truc, etc., il y a des chances que le jour où vous allez avoir 5 minutes, vous allez avoir un peu la flemme, puis vous allez plutôt attraper la zapette pour zapper sur la téloche ou surfer sur l'internet, là, plutôt que de jouer la guitare. Alors moi, je sais que chez moi, et depuis très longtemps, et pourtant, je suis père de famille, j'ai 3 enfants, des enfants qui commencent à grandir, mais enfin bon, ils ont été petits une époque, là, le petit dernier a 5 ans maintenant, il y a toujours des guitares je dirais pas dans toutes les pièces, mais enfin dans la pièce principale. Là, je me retourne, oui, il y en a 5, il y en a 2 dans la chambre, enfin bon, il y en a partout, puis elles sont exposées, elles sont au Canada, elles étaient accrochées au mur, là, j'ai pas encore le temps de les accrocher au mur, donc elles sont sur des stands, mais elles sont disponibles, donc il suffit que je m'assoie sur une chaise, dans le canapé, j'attrape une guitare, et hop, je peux commencer à jouer, et ça, c'est très important. Alors peut-être la patronne sera pas très contente ou tout ça, c'est il faut faire preuve de jugeote, mais définitivement avoir la guitare tout disponible d'accès, ça c'est très bon comme truc, quoi. Alors acheter du matos, c'est aussi un autre truc. Bon, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est vrai que ça remotive et puis ça fait aussi partie du plaisir. Un autre achat que moi j'ai fait il y a pas très longtemps, c'est un looper. Donc moi, la pédale que j'ai achetée, c'est la pédale RC2 de Boss, qui est toute petite, qui a le format une unité là de classique de Boss. Et ce que ça fait un looper, c'est que, alors ça fait boîte à rythme, mais le principe du looper, c'est que vous enregistrez une séquence d'accords, un truc de 30 secondes, pof, et puis ça le boucle. Donc c'est-à-dire que c'est un guitariste rythmique qui est avec vous, toujours disponible, qui râle pas, qui prend jamais de solo, qui vous laisse tous les solos et justement qui se fatigue jamais. Donc ça, pour progresser, c'est excellent. Et là encore, bon, il y a quelques boutons, mais c'est quand même assez facile à maîtriser. passer. Alors bon, on peut faire la même chose à travers GarageBand, etc. Mais un ordinateur, là aussi, ça va être une source de distraction. Vous allez vous dire, ah bah tiens, si je rajoutais telle chose, ou tiens, vous avez votre navigateur internet d'ouvert, vous allez vous mettre à vérifier vos emails entre deux jams. Enfin bref, voilà. Alors que là, c'est sous forme de pédale. Vous pouvez, c'est un bloc-notes en fait. Hein. C'est pas vraiment un outil d'enregistrement, c'est vraiment un outil de, en tout cas, qui est, je pense, très puissant au niveau pédagogique. Donc la Boss RC2, rien, ça coûte quoi, il me semble 120€, quelque chose comme ça. Il y a un modèle un peu plus perfectionné avec deux pédales qui permet de faire des tas de choses. Parce que c'est aussi un instrument de musique, c'est pas tellement le terme. Enfin, il y a des gens qui s'en servent sur scène, qui jouent un accord et puis après qui jouent par-dessus. Donc on peut s'en servir comme ça. Mais moi, c'est juste pour le plaisir comme ça de jammer avec moi-même, et c'est très bien. Donc et vous pouvez même aussi, ce que j'ai fait déjà des fois plusieurs fois, injecter dedans une séquence MP3 ou brancher un CD dessus pour enregistrer un petit bout d'audio et ensuite le rejouer par-dessus en le ralentissant, en l'accélérant, etc. Ça, c'est redoutable aussi comme outil pédagogique. Hein. Donc le looper, c'est un investissement que j'ai fait il n'y a pas très longtemps et avec le qui est sans arrêt branché. Le 9 fois sur 10, quand je joue, je m'en sers, ne serait-ce que pour avoir un petit rythme ou pour jouer sur les quelques séquences là, que j'ai enregistrées dessus, puis que je garde assez rarement. Quoi. Alors dans le même style, dans le même registre, il y a s'enregistrer et se réécouter. Alors, il y a d'ailleurs Shai là, qui l'a mentionné dans le feedback Facebook, dont je parlerai un peu plus loin. Alors, ça fait mal au début, de pas tellement de s'enregistrer, mais de se réécouter. Ça fait mal parce qu'on a toujours l'impression qu'on joue mieux que la réalité, mais c'est très puissant comme outil parce que bah vous entendez tout et vous êtes effectivement très critique, donc c'est intéressant de jouer, soit de jouer comme ça au fil de l'eau, de se réécouter après, ou alors de travailler un petit morceau, une petite composition, une petite séquence d'accords que vous faites tourner. Vous avez même pas forcément besoin de boîte à rythme, ça aide parce que ça force un peu à travailler le rythme puis à rester carré. Mais ça, c'est un instrument très puissant. Il y a aussi jouer en groupe ou avec d'autres musiciens. Ça, clairement, c'est l'interaction, le travail en groupe, l'écoute des autres, voir, faire des compositions, faire des reprises. Ça demande, c'est un autre travail que le travail très solitaire du guitariste, mais c'est un travail qui est très important et qui permet justement de s'oxygéner un petit peu parce que bah, vous voyez d'autres musiciens, pas forcément d'autres guitaristes, mais d'autres musiciens. Vous apprenez à interagir avec eux et la musique, quand même, l'essentiel, c'est l'écoute. Hein. Les musiciens qui sont des bons musiciens, c'est les musiciens qui écoutent, qui passent plus de temps à écouter qu'à jouer. Quoi, hein. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on reproche aux gratteux, quoi, en particulier aux solistes, là, c'est de faire chier le monde avec des solos à la rallonge, alors que bon, en fait, des fois, il y a des chansons qui n'ont juste pas besoin de solo. Quoi. Donc clairement, jouer en groupe, moi je sais que c'est quelque chose que j'ai fait relativement régulièrement. Là, ça fait un peu pas mal de temps que j'ai plus de groupe. J'en avais un à Montréal, mais là, depuis qu'on est revenu, j'ai pas vraiment cherché non plus. Et c'est quelque chose qui me manque. Et ça, c'est pour progresser. Ça, c'est redoutable. Alors, il y a aussi travailler des morceaux complets. On a tendance parfois juste à se concentrer sur le chorus, sur l'intro, sur le solo. Je me rappelle quand j'avais interviewé Manu Galvin, il m'avait dit « Ouais, alors c'est bien, les magazines de guitare, c'est bien, mais bon, si vous concentrez sur ce qu'il y a dessus, ben, vous connaissez que les solos, que les intros, que les solos. » quoi. Donc, c'est très important. Enfin, en tout cas, vous apprendrez aussi beaucoup à travailler un morceau d'un bout à l'autre. Et c'est pour ça que jouer en groupe, ben là, ça va vous aider. Parce qu'en général, en groupe, vous ne faites pas que le solo, que l'intro. Vous voulez évidemment jouer le morceau au complet. Quoi. Il y a aussi un autre, alors c'est un peu la réciproque de ce que je viens de dire, travailler des solos connus et y revenir périodiquement. Moi, je sais qu'il y a des solos que je connais par cœur, que j'ai déjà joué des dizaines, peut-être des centaines, peut-être déjà des milliers de fois, et que encore, toujours, quand je les réécoute et que je rejoue je découvre des choses où je me rends compte que j'avais l'impression que j'avais maîtrisé, mais pas du tout. Donc c'est un peu des morceaux de référence, c'est pas forcément des solos, hein, mais je sais qu'en tout cas, si je parle uniquement des solos, je sais que moi il y a les deux solos de Sultans of Swing. Pour moi, c'est des solos de référence. Le solo de Hotel California aussi, c'est un solo qui est fabuleux, qui est pas hyper rapide, hein, mais il y a tellement de bends, de notes tirées, vibrées dans tous les sens que c'est vraiment tout en nuance. Il y a un morceau de Jeff Beck qui est fabuleux, moi qui met toujours le frisson quand je l'écoute, qui s'appelle Cause We've Ended as Lovers. Et moi, ça fait peut-être 10-15 ans que je m'escrime dessus. C'est tout récemment que j'arrive à le jouer d'un bout à l'autre. J'arrive pas au quart du poil de cheville de Tonton Jeff, hein, on s'entend là-dessus. Mais c'est que y a tout récemment que j'ai eu une sorte de déclic et j'arrive à retrouver un petit peu, en tout cas, de l'émotion que moi j'ai en écoutant le morceau. Donc c'est un peu, il faut remettre sans arrêt l'œuvre sur le métier et puis recommencer et retravailler et surtout réécouter. Hein, ça c'est très important. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Ah oui, travailler des gammes ou des plans en regardant la télé, par exemple, hein, même avec une guitare électrique pas branchée. Moi, ça m'arrive très souvent. Là, ça vous permet de travailler le côté purement mécanique, coordination main gauche, main droite. Voilà, ça mange pas de pain. Et puis ça, c'est faisable sans emmerder les voisins ou sans forcément jouer un groupe. J'ai mis lire Guitar Player parce que moi, c'est un magazine que j'achète religieusement depuis déjà. Pas mal d'années, peut-être bien, ouais, facilement 15-20 ans. Et c'est un excellent magazine. Alors bon, évidemment, il faut savoir lire l'anglais. Ça coûte un peu plus cher de se faire abonner, de l'acheter ici que ça me coûtait au Canada. Mais il y a toujours des très bonnes rubriques, des très bonnes interviews. C'est de largement au-dessus. Je vais peut-être pas me faire des amis, là, mais largement au-dessus de la presse française à ce niveau-là que moi j'achète plus depuis bien longtemps. Hein, donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et évidemment, puisqu'on parle de podcast, eh bien, écoutez des podcasts sur la guitare. Bon, visiblement, vous êtes en train d'écouter la chaîne guitare, donc je ne vais pas vous demander de l'écouter. Mais il y a d'autres podcasts sur la guitare. Moi, je sais qu'il y en a un en particulier que j'écoute, dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Six String Bliss, qui est fait par deux Américains. Où ils se prennent pas la tête, mais ils font des choses vraiment intéressantes. Et moi, j'écoute toujours leurs émissions avec grand plaisir. Et puis, j'ai appris des choses. Ça permet de découvrir d'autres horizons. D'ailleurs, Laurent le mentionnait dans son feedback. Ça ouvre l'horizon sur d'autres choses. Et ça, c'est toujours enrichissant. Bon, puis évidemment, Internet. Écoutez, je vais pas vous l'apprendre, hein, mais YouTube pour déchiffrer des trucs très pointus. Moi, ça m'arrive de m'en servir. Pour aller écouter un morceau qui a été rejoué, parce qu'il y en a qui mettent des choses qui sont intéressantes. Alors, il y a beaucoup de déchets dans YouTube, donc faut chercher. Mais des fois, pour une phrase particulière dans un solo, ça peut être un outil très puissant. Et enfin, encore une fois, relié à Internet, les backing tracks. Alors ça, les backing tracks, c'est le pur bonheur. Moi, je dis souvent en plaisantant que le iPod, ça a vraiment changé ma vie à ce niveau-là. Parce que des backing tracks, il y en a plein à l'internet, suffit de chercher un peu, bon, c'est plus ou moins bon, c'est plus ou moins gratuit. Mais là, c'est un outil de pédagogique extraordinaire. Là, vous avez un groupe pour vous tout seul et puis vous avez juste à jammer par-dessus. Alors des fois, c'est des morceaux connus, des fois, c'est pas des morceaux connus, mais c'est... Moi, j'ai passé des heures formidables à jammer sur des backing tracks parce que c'était bien enregistré et puis bon, bah parce que c'était un support, pas forcément juste à faire du solo tout le temps, mais à juste jouer par la guitare par-dessus des backing tracks pro là où il y a une piste vocale par exemple, c'est assez trippant. Alors ça remplacera jamais une interaction évidemment avec un vrai groupe là, mais pour s'essayer à des styles ou pour évidemment jammer n'importe où, n'importe quand, ça c'est clairement c'est un vrai bonheur. Donc voilà, je vous ai donné un peu en vrac là les quelques points, en tout cas moi quelques recettes de cuisine que j'utilise. Le débat est lancé. Alors je vais lister maintenant les quelques réactions qu'il y avait eu sur Facebook là quand j'avais lancé l'appel. Ah, il y a Philippe qui raconte une histoire. L'histoire c'est ça. Alors c'est un mec qui doit se rendre à un concert à Carnegie Hall et qui est complètement paumé dans New York. Alors il croise un mec avec un étui de guitare à la main. Il s'arrête en se disant qu'un musicien doit forcément savoir où ça se trouve. Alors il lui demande « What is the shortest way to the Carnegie Hall, please ?» Et le guitariste lui répond « Practice, just practice. » Voilà. Donc tout est dit, il faut pratiquer, s'entraîner, c'est la meilleure méthode. Alors évidemment, bon, c'est une joke là, mais je pense que tout est dit. Alors ici Tristan, que je vais d'ailleurs très bientôt interviewer dans la chaîne guitare, Tristan Klein, qui dit jouer, 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 donc il reprend en fait le ce que je vous ai dit en intro. Et qui dit changer le plus possible de matos. Alors, il met un point d'exclamation. Alors faut dire que Tristan, côté matos, vu que c'est une partie de son boulot là, c'est d'être démonstrateur pour des belles marques. Il en a vu passer du matos. Donc le fait d'être motivé par un matos pour obtenir un son particulier, clairement, il connaît ce mécanisme là. Alors il y a Shai Sebag que j'avais interviewé il y a quelques temps, qui dit donc ce que j'ai déjà mentionné un peu plus tôt. Donc il dit, pour moi, le meilleur moyen de progresser, c'est de s'enregistrer. Ça fait très mal au début, mais c'est efficace. Et Chat, il prêche vraiment par l'exemple, parce qu'il s'enregistre assez souvent. Faites une recherche sur YouTube, vous verrez. Il poste des vidéos de lui où il s'enregistre, et il y a d'ailleurs une reprise d'un morceau de M là, qu'il a posté tout récemment sur YouTube, qui est une vraie perle. Hein. Donc, clairement, ça aussi, c'est une très bonne idée. Il y a Yvan Gilvic, aussi interviewé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne guitare, qui dit jouer en groupe très vite, s'enregistrer souvent et surtout jouer sur scène. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on a parlé de jouer en groupe, mais clairement jouer sur scène, ça c'est un apprentissage qui est phénoménal, hein. Et je crois bien que c'est Louis Bertignac qui le disait dans l'interview que j'ai faite de lui, disait bon, il faut bien être honnête, hein, quand vous êtes sur scène, vous allez jouer au maximum à 10% de vos possibilités. Bon, 10% c'est peut-être un petit peu exagéré, mais clairement vous n'allez pas jouer avec le niveau que vous avez peinard dans votre salon, sur votre canapé, super relax, assis, tranquille quand vous êtes sur scène. Il y a tout un tas de facteurs qui vont vous stresser, même si vous êtes super rodé et compagnie. Il faut faire le show, donc bon, mais du coup, ça va vous pousser à aller plus loin. Et moi, je me rappelle, il y a quelques années, avant de partir au Canada, j'avais un groupe où on faisait des reprises. Puis pendant quelques mois, on avait joué dans un bar dans le quartier latin. Et je me rappelle très bien, très nettement de cette période-là. J'avais fait des progrès incroyables, non pas en technique pure, mais j'étais beaucoup plus carré dans mon jeu, parce que on avait joué 5 fois de suite, enfin pas de suite, mais dans la même soirée 5 fois le même morceau, et puis comme ça de 8h à 2h du matin, un truc comme ça. Donc ça laisse des traces. C'est comme le marathon, hein. Si plus vous courez, plus vous allez être capable de courir le moins. Donc clairement, jouer sur scène. C'est une école très bonne, et puis jouer, accueillir 5 personnes ou 500 ou 2000, c'est pareil à la limite, hein. Le stress de toute façon va être le même pour vous, donc clairement, si vous pouvez, moi je sais que les quelques fois où j'ai joué sur scène, que ce soit lors de fêtes de la musique, de tremplin rock, de concerts à gauche à droite, de choses comme ça, ça a toujours été des expériences incroyables, et qui sont là des sources de motivation phénoménales, hein, parce que là vous fixer un but. Moi, les fois où j'étais en groupe, là où ça se passait mal, où ça virait un autre boudin, c'est parce qu'il n'y avait pas de projet pour un concert, pour une fête de la musique ou n'importe quoi. Hein. Donc, et moi, répéter pour répéter avec un groupe, ça m'emmerde, mais à mort, quoi. Alors que répéter pour une date, des concerts, etc., alors là, ça me fait grimper au rideau, là, ça me file des coups de pied au cul big time, quoi. C'est vraiment un moteur très puissant. Et il y a aussi Jérôme qui disait, alors bonjour, étudier le jeu d'autres guitaristes et écouter leurs conseils est aussi important et permet de bénéficier de l'expérience de chacun. Donc voilà, ça aussi, clairement, écouter les guitaristes, c'est un peu ce que j'essaie de faire, clairement, avec la chaîne guitare, hein, de faire parler, hein, ces êtres incroyables que sont les musiciens de grand talent, pour qu'ils nous expliquent un peu qu'est-ce que c'est leur démarche, comment ils font pour écrire, pour composer, pour travailler, pour connaître un petit peu de leurs secrets. Voilà, donc en tout cas, le débat est lancé. J'espère bien qu'il y aura d'autres volets à cette émission, à ce Comment progresser volume 1. Surtout, si vous avez un iPhone, utilisez l'application Dictaphone, et puis pour m'envoyer une poignée de secondes, quelques minutes, peu importe, hein, on s'en fout, hein, c'est du podcasting, on a bien tout le temps qu'on veut, pour me dire ce que vous pensez de ça, qu'est-ce que c'est vos trucs, est-ce qu'il y a des aspects que j'ai pas abordés. si vous avez un prof incroyable qui vous a vraiment fait progresser, ou réciproquement vraiment un prof qui vous a curé la guitare. Moi, je sais qu'en ce moment, je suis un peu en phase à me dire, tiens, probablement ça me motiverait ou ça me donnerait un cadre de trouver un prof de guitare. Alors voilà, si vous connaissez un bon prof de guitare plutôt rock sur Paris, bah écoutez, faites-moi signe. Ou même dans tout type de genre. Moi, je suis plutôt branché rock, mais si vous avez des expériences avec des profs avec qui ça s'est très bien passé, faites-moi part. Je serais ravi de partager ça. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes que ça intéressera. Voilà, voilà. Donc c'est la fin de cet épisode un peu particulier. J'espère que ce format vous plaira. Si c'est le cas, eh ben on en refera d'autres comme ça. Vous inquiétez pas, la chaîne Guitare a encore tout plein d'interviews sous le coude à vous présenter. Donc vous connaissez de toute façon le chemin pour agir. Vous allez sur le web à l'adresse www.lachaineguitare.com. Il y a aussi donc la page Facebook, la page fan Facebook, donc facebook.com/lachaineguitare, où il y a toujours beaucoup d'actions, et ça c'est très bien. Et il y a le flux Twitter, twitter.com/lachaineguitare, et aussi mon adresse email perso, pjournal@gmail.com. Voilà, donc je vous fais des grosses bises, continuez à bien jouer de la guitare, et on se reparle très bientôt. Ciao, bye bye.